Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de Voix Enchantées. C'est l'émission qui donne la voix à des personnes passionnées par l'art qui viennent partager, entre autres, leurs goûts artistiques. Ce mois-ci, on est avec Nour, qu'on retrouve dans un instant. Voix Enchantées.
Barry Jenkins, qui est un scénariste et réalisateur américain.
Léonie Pernet.
Booba. Je voudrais dire sans rien y ajouter. Je suis.
Une émission de Louisa Léo, une fois par mois à 18h sur Radio Campus Paris. Bonjour Nour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que, avant de nous révéler tes choix, ton texte, ta bribe de phrase, tu peux nous dire deux mots sur ce que tu fais, ce que tu aimes, tes passions, tes hobbies dans la vie, en ce moment?
Moi, je suis en doctorat d'études théâtrales en première année. Donc j'aime le théâtre, a priori. J'aime aussi beaucoup lire et écrire. J'écris beaucoup. Le cinéma, même si je ne m'y connais pas beaucoup, enfin, plein de choses, quoi.
Ok, tu baignes dans tous les arts.
J'essaye. C'est un peu présomptueux de dire ça, mais j'essaye.
Bon, on y va avec le choix d'artiste. La première étape de l'émission, comme chaque mois, c'est le choix de l'artiste qui, toi, te touche, ou en tout cas, dont le travail te parle. Est-ce que tu peux nous dire qui c'est et aussi du coup le style d'art dans lequel il s'inscrit?
Oui, donc c'est Stefan Zweig, un écrivain autrichien. En fait, c'est l'un des écrivains qui pour moi, c'est celui qui écrit le mieux de tout ce que j'ai lu. Enfin, j'aimerais tellement écrire comme lui. Et il écrit beaucoup de formes courtes, pas des nouvelles, mais des romans qui sont vraiment assez courts et qui se concentrent généralement sur une idée qui développe. Et bien sûr, je le lis traduit parce qu'il écrit en allemand. Quand bien même, à chaque fois, je retrouve ce même flot de mots qui nous emporte, en fait. Enfin, c'est des livres où on a envie de le refermer pour respirer avant de se remettre à lire. Et en plus, son histoire est assez touchante parce qu'il a connu la montée du fascisme. Et très tôt, dans les années 30, il a compris que le monde allait à la catastrophe, quoi. Et il s'est exilé d'abord à Londres, puis en Amérique du Sud, et s'est suicidé là-bas, en 42. Et donc, c'est assez touchant.
Donc, ce qui te touche, c'est à la fois son histoire personnelle et le style que tu qualifierais comment, en fait? Tu dis, j'ai jamais lu quelqu'un qui écrit aussi bien, et je l'admire, et j'aimerais trop pouvoir faire ça. Qu'est-ce qui est spécifique, à part les formes courtes, qui, du coup, sont, j'imagine, intenses et puissantes, mais les mots, alors, comment il les agence? Enfin, c'est un peu dur comme question, mais tu vois.
Je ne saurais pas dire vraiment comment il arrive à faire ça. Mais en fait, c'est comme... par exemple, il y a une de ses nouvelles qui s'appelle Amok ou le fou de Malaisie. Et c'est marrant parce que cette nouvelle, je ne m'en souviens pas trop. Mais je me souviens que j'avais l'impression de tomber au fond d'un trou et que c'était un tourbillon, quoi.
C'est quand même une écriture de la sensation, j'ai l'impression. C'est quelque chose qui te fait ressentir des choses fortes. Et donc, c'est pour ça que tu admires ce qu'il fait.
Oui, vraiment. Il a des sujets qui sont à la fois simples et hyper importants dans L'être d'une inconnue. On peut dire que c'est un sujet vraiment bateau. C'est donc une femme qui écrit à un homme qu'elle a aimé très fort et qui sans doute ne se souvient même pas d'elle. Mais en fait, il développe ça sur vraiment tout son roman qui est quand même assez court, qui est à la limite de la nouvelle. On entre vraiment dans la vie de cette femme et c'est juste une lettre en fait. Tout le roman, c'est une lettre. Mais ça nous emporte, quoi. Et puis, par exemple, dans La confusion des sentiments, c'est aussi un autre roman qui est super bien. Ça parle de l'homosexualité, ce qui est assez étonnant à son époque. Enfin, il a une sensibilité et il a des sujets qui sont assez intéressants et en même temps simples.
En tout cas, le mot sensibilité, j'ai l'impression qu'il est partagé entre la sienne et la tienne, quelque chose qui rentre en fusion quand tu lis. Est-ce que tu dirais que chaque livre que tu as lu de Stefan Zweig, ça t'a parlé à toi, avec ta vie? Peut-être tu t'es identifié?
Oui, ça me parle, mais je ne saurais pas dire forcément ce qui me parle. En tout cas, pas dans tous les romans. Après, il y a quand même je suis fascinée par tout ce qui est le passé, je ne sais pas pourquoi, et les choses disparues. Et souvent, il y a un ton, un peu, on a l'impression qu'il décrit quelque chose qui est déjà passé.
Merci beaucoup. On passe tout de suite à ton coup de cœur musical. Après la littérature, un peu de musique, avec ton coup de cœur musical Nour, est-ce que avant qu'on écoute le morceau, tu peux nous annoncer le nom de l'artiste et le titre de la chanson?
Oui, alors c'est un morceau du groupe Feu Chatterton et c'est À l'aube.
Nous étions frères un jour et les choses ont changé, c'est vrai. Il est parti, 18 mois à l'autre bout de la terre, éprouver son corps et sa tête dans les champs de bananes d'Océanie où l'on se lève à l'aube, éprouver le reste sur les plages asiatiques où l'on goûte au bonheur de synthèse et aux espaces infinis que les eaux couvrent la nuit. Où l'on se lève à l'aube. Et si nous avons pleuré ensemble ce jour de septembre où nous nous sommes quittés, c'est qu'on savait que l'infinie tendresse, la mémoire et le téléphone mobile sont peu de choses contre la distance, que tout allait changer. Il est parti, ce qu'il se lève à l'aube. Ouais, faut bien s'arracher. D'abord, il y a l'âge libre avant la vie domestique, qu'on attend tous comme une sentence absurde et nécessaire. Et puis, ces chimères à fuir, qu'on croit laisser aux portes des avions long courrier. Enfin, la peur de s'engraisser ici, que le confort nous abêtisse. Il est parti, c'est qu'il se lève à l'aube, c'est qu'il se lève à l'aube. Dans nos longues nuits blanches qui s'en allaient mourir dans le cendrier, on a beaucoup rêvé et attendu que les choses adviennent, comme par enchantement. Des lendemains de ces soirs grisés, il me souvient surtout l'odeur amère du tabac froid, la torpeur qu'engendrait le shit qu'on fume, l'impuissance et l'orgueil. Il faut choisir, la vie est ailleurs. Voilà ce qu'on se disait. Il est parti, c'est qu'il se lève à l'aube. C'est qu'il se lève à l'aube. Déjà moins bavard que lorsque je l'ai connu, 8 ans plus tôt. C'est qu'il n'y a pas d'âge pour avoir de vieux démons. Les siens lui parlaient, je crois, de filiation et d'arbres généalogiques. À celui-là aussi, on coupe les branches qui font ombrage et les feuilles meurent à l'automne. Alors, j'ai compris ce silence et je l'ai partagé. Je me suis aussi dit que j'étais moi-même sans doute moins fougueux, moins dispendieux qu'en notre prime adolescence. Lors, on découvrait comme tout le monde le péril de toute véritable entreprise de séduction et la saveur des lèvres maladroites et conquises. On apprenait aussi par cœur les mystères âpres et charnus du con féminin qu'on touche d'abord avec les doigts. Et surtout, surtout, l'insolent et naïf sentiment de liberté, les poumons amples, quand on prend la route du voyage pour la première fois. Il est parti, c'est qu'il se lève à l'aube, c'est qu'il se lève à l'aube.
Alors Nour, merci déjà pour cette poésie musicale. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce morceau ?
C'est l'un de mes morceaux préférés, avec comme un Lego dans la Bachung qui était encore plus long, donc j'ai choisi celui-là. De manière générale, Feu Chatterton, je crois que c'est mon groupe préféré. Justement parce que c'est de la poésie, en fait, qui est mise en musique. Enfin, je trouve vraiment toutes leurs paroles très très belles et très recherchées. Et ce groupe, je l'ai découvert quand j'étais en première. Je m'en souviens parce que je faisais mon TPE. Et vraiment, j'avais jamais entendu ça, quoi. Et celle-là, c'est l'une des premières que j'ai entendues et qui me touche beaucoup, bah, parce qu'il y a toujours ce truc, ce rapport à quelque chose qui est, en l'occurrence, quelqu'un qui est parti, qui est disparu, dont on se souvient. Et ça, ouais, ça me touche beaucoup, beaucoup. Et le clip est super aussi, il faut le regarder.
Plusieurs écoutes pour plusieurs réceptions différentes, j'ai trouvé. Tellement il y a assez riche, en fait, tout ce qui se passe. Le côté poétique du sens et de la forme, parce que chaque mot est pesé, chaque mot est soufflé. Enfin, il a quelque chose, ce chanteur.
Oui, il a une voix qui me touche beaucoup aussi, qui est très légèrement cassée. Effectivement, il y a plusieurs réceptions, mais même dans le texte, à chaque fois que je l'écoute, en fait, je comprends une chose différente.
On se raconte pas toujours la même histoire de ce qu'on capte, en fait.
Oui, c'est ça. En fait, il peut parler d'un frère, effectivement, mais peut-être qu'un frère, c'est aussi un ami. Et peut-être qu'il va revenir. Et peut-être pas. On ne sait pas ce que ça signifie vraiment partir, en fait.
Et où est-ce qu'il est exactement ? On ne sait pas. En fait, on a plus une espèce de vague d'émotions qui nous transmet. Et l'intensité, je trouve qu'elle passe aussi par la musique, parce que souvent, quand on a une grande voix, ou en tout cas une voix comme ça d'un poète, un peu à la Jacques Brel, Léo Ferré, on a la voix qui est très mise en valeur, et puis la musique, elle accompagne un peu. Alors que là, plus ça avance, plus musique et voix, musique rock, pop rock et voix, forment quelque chose de nouveau. Et du coup, je comprends que tu aies eu un choc à la première écoute, où tu t'es dit, en fait, j'ai jamais entendu ça.
Oui, complètement. Pareil, c'est aussi une musique qui nous emporte et qui... Enfin, elle arrive tout doucement comme ça au début et puis elle accélère et ouais, elle porte vraiment le chant, en fait. Les deux sont pas dissociables, quoi. Elles se complètent parfaitement.
Et est-ce que tu saurais dire pourquoi ce morceau en particulier de Feu Chatterton, toi qui écoutes beaucoup Feu Chatterton? Bon, tu l'as un peu dit quand même, quelqu'un qui est parti, le passé, on revient au passé et on va continuer d'y aller. Mais est-ce que tu saurais dire, voilà, ce morceau-là, pourquoi moi, Nour, il me touche autant et pourquoi je vais l'écouter tel nombre de fois par jour, tout ça?
À la notion de fraternité, parce que ça me fascine, en fait, ce genre de relation-là, avec un frère ou avec une sœur. Les relations humaines, en général, m'étonnent et me surprennent et m'émerveillent, en général. La relation quand même de naissance avec un frère ou une sœur m'interroge. Moi, j'ai un frère, mais qui est beaucoup plus âgé que moi, que j'aime beaucoup, etc. Mais avec qui j'ai pas vécu longtemps, quoi. Et donc, du coup, les gens qui ont assez peu d'écart avec leur frère ou leur sœur, qui sont très proches, enfin, c'est une relation que je peux pas comprendre. Et puis, je pense qu'il y a une petite fascination personnel qui vient aussi du fait que mon père avait un frère qui est mort avant ma naissance. Et du coup, je me suis toujours demandé comment ce serait s'il était là, quoi. Et comment c'est de perdre quelqu'un d'aussi proche, quoi. Donc voilà, je pense que c'est ça.
Merci beaucoup. On passe maintenant à ton partage de texte. On a parlé littérature, musique, et maintenant, c'est un texte qui est à toi, que tu vas nous livrer. Donc déjà, merci beaucoup pour ça, parce que c'est peut-être pas la chose la plus simple à faire. En tout cas, on est là, en studio, et c'est vraiment super. Alors, est-ce qu'avant de nous le lire, tu peux nous dire comment il est né, ce texte? Est-ce que tu l'as écrit bien avant l'émission, pour l'émission? Comment ça s'est passé?
Donc, je l'ai écrit avant l'émission, vu que j'écris, j'aime bien écrire. Il se trouve que là, c'est un poème. En vers libre. J'en écris pas beaucoup, mais j'aime bien. Donc il faut savoir que je suis un gros cœur d'artichaut et que chaque fois que j'aime quelqu'un qui m'aime en retour ou pas, j'écris des choses dessus. Au départ, c'était à propos d'une personne, mais en fait, maintenant, je suis contente de voir que ça s'est complètement détaché de cette personne et que le poème existe juste tout seul, quoi.
On t'écoute.
Moi seule, je sais tes yeux. Je les sais devant la lumière neuve. Je les sais après le coma du soir. Après le sombre quand il s'ouvre, je sais leur entrebâillement muet devant les choses, la couleur d'aube anglaise et le jaune au fond. Je sais la couleur des fous de Bassan sous l'eau profonde. Que n'ai-je peint cela de mes mains que tu tenais en ta paume, de mon cabinet noir, de mes yeux happant l'image. Que ne l'ai-je fixé pour toujours au fond de mes rétines, à l'émail de mes dents même, j'aurais dû les graver. Ces yeux qui s'ouvraient devant comme un chemin gris clair. Vous n'êtes plus ceux que j'ai connus. Pour moi, ce sont tes vrais yeux. Ceux-là seulement. Ce que nul ne sait. Les ignares croient voir deux sphères d'une couleur médiocre. Moi seul sais les portes que tu ouvres quand la frontière de la nuit recule et que la mort, petite, la nôtre, arrive. Alors, c'est un littoral nouveau que l'on a en face. Je ne sais de toi que ce terraqué. Je l'ai enclos en moi comme on enferme le sable d'une lointaine plage en un flacon de verre. Parfois, je veux le regarder, et chaque fois, ma vue baisse. Pourtant, je me dis, quand bien même, il n'y a que moi qui le savais.
Merci beaucoup, Nour, pour ce partage de texte et cette interprétation. On parlait d'interprétation tout à l'heure, c'était magnifique. Alors maintenant, on va passer à une œuvre qui est phare pour toi. C'est-à-dire que parmi tout ce que tu vois, tout ce que tu lis, tout ce que tu binges comme série peut-être, tu as dû choisir donc une œuvre. Qu'est-ce que c'est et pourquoi cette œuvre ?
Donc c'est un spectacle, une pièce de théâtre, qui s'appelle Le Passé, mis en scène par Julien Gosselin.
Le Passé, ah bon ?
Oui, voilà, on revient toujours aux mêmes choses. Alors, c'est une pièce qui est difficile parce qu'elle est très, très longue. Moi, au départ, quand la pièce a commencé, je me suis dit, mais je vais sûrement pas rester. Je vais sûrement partir à l'entracte parce que c'est nul, il joue mal. Enfin, c'est moi. Et en fait, c'est fait pour, au départ. Il claque des portes, il parle un peu faux et trop fort. Et en fait, tu comprends que ça débute sur une sorte de parodie de théâtre de boulevard. Tout au long de la pièce, en fait, c'est des extraits de plusieurs œuvres d'un même auteur russe qui s'appelle Leonid Andreev, notamment une pièce en particulier qu'il a écrite qui parle d'une femme qui est accusée d'adultère par son mari et qui est vraiment enfermée dans cette société dans laquelle elle vit. Et c'est brillant, quoi. Et il y a vraiment des... Enfin, ça passe d'une forme théâtrale à une autre. D'un coup, un moment dans la pièce, tout s'éteint. Et c'est une nouvelle d'Andreev qui est lue dans le noir, qui en même temps est projetée, dont les mots sont projetés sur un écran. Et elle est lue, mais en même temps, elle est auto-tunée. Et c'est vraiment tellement osé.
Un nouveau choc esthétique sur la forme, en tout cas, de ce que tu vois. Et le contenu t'a beaucoup plu aussi. Je vous propose qu'on écoute le metteur en scène Julien Gosselin parler de son spectacle Le Passé. C'était en juillet 2021 au Théâtre National de Strasbourg.
Vous savez, souvent on entend les metteurs en scène raconter, et souvent à raison d'ailleurs, hein, je veux dire, j'ai rien à dire contre ça, que Shakespeare est plus contemporain que les auteurs contemporains. Alors bon, Stan et moi, on n'est pas tout à fait d'accord avec ça souvent, mais d'une certaine manière, je peux le comprendre. Ou que Racine est plus contemporain que les contemporains. Et j'ai jamais entendu un metteur en scène, à part peut-être certains metteurs en scène de théâtre patrimonial, vous voyez les reconstitutions qu'on voit l'été, dire qu'au fond, on allait chercher des textes du passé parce qu'ils racontaient un monde qui, d'une certaine manière, n'existe plus, parce qu'ils racontent des gens qui n'existent plus, des mots qui n'existent plus, des habits qui n'existent plus, des chansons qui n'existent plus. Et que, comme j'ai une tendance à la nostalgie extrêmement puissante, je me suis dit, tiens, pour une fois, alors que je ne montre que des auteurs contemporains, je vais aller chercher quelqu'un du passé, mais non pas pour en rendre, au fond, l'extrême actualité, même si je suppose que le théâtre étant un art vivant, il finit toujours, même malgré moi et malgré tous mes efforts pour en faire un objet du passé, par le rendre vivant devant vous. Je suis désolé, ce sera un spectacle vivant. Mais je voulais disons, rendre avec ce spectacle quelque chose qui parle de la perte, de la disparition, disons, du passé. Donc le spectacle, je souhaite qu'il raconte ça. Généralement, vous verrez c'est ce qui se passe avec mes spectacles, vous verrez quelque chose qui ne raconte pas du tout ce que je suis en train de vous raconter là.
Alors Nour, il y a beaucoup de choses dans cette archive, mais parler du passé pour parler du passé et pas forcément faire ce mouvement de regarder le passé éclaire notre présent, éclaire l'actualité, c'est quelque chose auquel toi t'es sensible ?
Ben, naturellement, comme je disais, je suis un peu... j'ai un peu mon obsession sur le passé et... Enfin, et c'est même sur quoi je travaille. Enfin, mon doctorat, c'est sur l'histoire du théâtre. Je travaille beaucoup sur des archives. C'est pas courant, quelqu'un qui veut montrer que, en fait, effectivement, c'est du passé et on le regarde de nous comme de très très loin. Et c'est pas grave, en fait. Pour que quelque chose soit intéressant, c'est pas obligé de se dire que ça résonne avec notre actualité ou que c'est très contemporain, en fait. Ça peut aussi nous dire des choses, de se dire, tiens, ça c'est un langage, c'est une vision du monde, c'est une société qui y est passée. Mais regardons-la quand même pour... elle a un intérêt en elle-même, en ce qu'elle est passée, en fait. En général, tout ce qui est un peu dans le futur, vraiment, je déteste. Je déteste la science-fiction.
J'adore cette phrase.
Et je déteste qu'on me parle de planète ailleurs, je sais pas quoi. J'ai envie de leur dire, mais je ne suis pas dupe.
Eh ben, on reste dans le passé plutôt que dans le futur. Et on passe, par contre, à la dernière étape, qui est ta bribe de phrase.
Hey, listen. You're too crazy, nigga. You better stop, man. You better stop. Let me tell you something.
Nour, je t'ai demandé, comme chaque mois, de partager ici avec nous une bribe de phrase que tu as entendue dans la rue, dans les transports, dans les cafés, dans l'espace public ou privé, attention, on peut faire les deux. C'est une phrase qui t'a marqué, qui t'a peut-être choqué, interpellé, fait rire. Est-ce que, avant de nous la révéler, tu peux nous dire quand est-ce que ça s'est passé et qui te l'a dit, etc.
Donc c'est une phrase que j'ai entendue en classe de prépa. Quand j'étais en hypocagne. Et c'est étonnamment ma prof de philo, qui pourtant était très très prof de philo.
C'est quoi être très très prof de philo, non ?
Elle était dans sa matière, elle était philosophie. Elle nous parlait de Hegel pendant des heures et elle était transportée. Et vraiment, En la voyant, on ne pouvait pas se dire elle a aussi une vie matérielle et elle fait ses courses au supermarché. Mais il y avait quelques fois où d'un coup, elle faisait une petite aparté. Et là, je ne sais plus du tout pourquoi elle a fait cette aparté-là et de quoi elle parlait avant. Mais à un moment, elle s'est arrêtée. Elle nous a dit « Ah, vous avez remarqué, c'est toujours aux soirées où on ne veut pas aller qu'on rencontre des gens. » Et en fait, ça a vraiment résonné à cette époque-là parce que j'avais rencontré mon amoureux de l'époque à une soirée où j'avais pas trop envie d'aller. Et du coup, je me suis dit, oh là là, elle a tellement raison. Et de manière générale, cette phrase, je trouve qu'elle nous dit un peu, il peut se passer des choses super, même si tu ne les comptes pas. Ce qui ne veut pas dire que tu dois t'obliger à faire des choses, mais aie confiance en ce qui va arriver, quoi.
Bon, ben merci la philosophie, merci la vie, et merci à toi, Nour, d'être passée dans l'émission.
Eh ben, merci à toi.
Merci Rosalie à la réalisation. On se retrouve le 2 avril à 18h sur les ondes de Radio Campus Paris.